Ben d'abord, bonjour, merci d'être là. Je vais vous présenter le PRESS parce que ça existe depuis le 23 octobre et donc c'est venu. Nous sommes dans les mêmes locaux que le pôle universitaire européen, mais il y a certaines missions que nous avons conservées et d'autres que nous sommes en train de faire évoluer. Donc, dans les missions du PRESS Université Montpellier-Sud de France, nous avons repris la mission campus, c'est donc d'assurer une meilleure lisibilité et de renforcer l'attractivité du site de Montpellier sur le plan national et international. Nous préparons aussi les conditions de la fusion des trois universités de Montpellier et nous assurons la gouvernance et le suivi de l'opération campus. Alors, dans la mission de l'accueil international, nous avons conservé le guichet unique qui était déjà avec le pôle universitaire européen depuis 1994. Donc, nous avons resigné une convention avec la préfecture au mois de décembre 2009 pour un accueil individualisé, tant pour les étudiants que pour les chercheurs. La particularité, c'est que les étudiants viennent et n'ont pas de rendez-vous, alors que les chercheurs, Axel vous expliquera tout ça après, mais vous avez un rendez-vous particulier, bilingue, avec aussi pas mal d'informations. L'officialisation du guichet du PRESS comme lieu exclusif de dépôt de dossiers pour les demandes de cartes de séjour étudiants et scientifiques internationaux séjournant dans le département de l'Hérault. Voilà, donc ça c'est ce qui existait déjà, mais... On est en train de faire aussi évoluer les missions de l'accueil à l'international. Comme je coordonne aussi les cours de FLE, français langue étrangère, nous ouvrons cette année, pour le premier semestre et le deuxième semestre, des cours du soir. Alors, je vais vous parler de niveau CE-CRL. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant. A1, A2, B1, B2, ça vous dit quelque chose ? C'est la même classification pour toutes les langues au niveau européen, français, anglais. Donc, nous ouvrons pour le premier semestre, ce sera des cours du soir, mais c'est à l'IEFE, à l'UM3. Et pour les niveaux A1, A2 et B1, c'est-à-dire débutants, faux débutants et un peu plus. Voilà. Après, Claudine vous a expliqué qu'il, sur l'IAMM, il y aurait des cours pour les avancées. Nous ne ferons pas de cours pour les avancées. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ben voilà, je vais passer la parole à Axel. Et donc oui, juste avant qu'Axel, parce que Axel était là déjà avant, moi je suis arrivée le 23 octobre, donc c'est lui la mémoire, c'est lui le contact, il sait beaucoup plus de choses que moi. Et pour vous dire aussi que aux questions-réponses, on ne va pas faire de cas individuels parce que nous, on doit repartir après, voilà. Donc, il fait la présentation des questions générales, mais pas de questions par rapport à vos cas, pas ce matin, voilà. Merci.
Oui, bonjour. Je pense que j'en connais beaucoup d'entre vous, soit par mail, soit en rendez-vous, soit vous avez rencontré ma collègue qui vous a reçu pour déposer peut-être un dossier. Donc, je suis Axel Paul. Oui, il y en a certains d'entre vous qui me connaissent quand même. On a tous été en contact, plus ou moins, non ? Oui, il me semble. Donc, je vais vous parler donc, de notre mission principale, qui est donc, le dépôt pour les titres de séjour. C'est vers moi que vous vous tournez dans ces cas-là, pour déposer un dossier scientifique. Donc, déjà, pour les chiffres, en termes de dossiers déposés, donc, on accueille également les étudiants pour les dépôts de titres de séjour. Donc là, tout est compté, première demande et renouvellement, puisqu'on prend les deux dans les deux cas. Donc on a eu 3500 dossiers étudiants déposés environ pour l'année 2009 et 250 dossiers de chercheurs, dont 100. Donc j'ai mis les deux périodes, puisque là on est en juin, donc j'ai comparé un peu les deux périodes. On est à une centaine de chercheurs, de dossiers de chercheurs déposés de janvier à juin de l'année dernière et cette année. Alors, à commencer par la demande de visa. Donc, je ne sais pas combien d'entre vous sont en statut scientifique. Combien sont déjà en statut scientifique ou étudiants scientifique? Qui c'est qui est en statut scientifique déjà? Une seule personne? D'accord, donc tout le reste, vous êtes étudiants en fait pour l'instant. Vous êtes tous étudiants. Je parle par rapport à la carte de séjour seulement.
Si vous dites scientifique, vous voulez dire postdoc Non. Comme ça, on peut faire des liens parce que.
D'accord. Non, en fait, je parle vraiment que par rapport au visa qui a été, que vous avez eu au consulat quand vous êtes arrivé. C'est ça, quand vous êtes arrivé pour faire votre demande de carte de séjour. Ok, donc vous êtes tous quasiment étudiants. Donc là, je vais parler, en fait, ça c'est vraiment pour les premières demandes. Je vais vous expliquer. Donc il y a un visa donc, qui est le visa de type 311-36, comme Claudine l'a précisé juste avant. Excusez-moi, en fait, je suis parti là sur les scientifiques, mais c'est les étudiants dont je vais parler en premier. Je vais parler du statut étudiant, donc qui est la majorité de vos cas. Donc il y a un nouveau visa qui a été mis en place pour les étudiants l'année dernière, qui a impliqué une nouvelle procédure. Donc c'est ce visa 311-36 étudiant. Il y a un formulaire qui vous est remis au consulat avec, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu affaire à ce visa. En fait, c'est ce formulaire, il faut l'envoyer à l'OFI à votre arrivée ici. L'OFI, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est situé vers la gare. C'est là que se passent les visites médicales pour l'obtention du titre de séjour. Donc il faut envoyer ce formulaire avec les copies du passeport et du visa. Après ça, vous recevez une convocation pour la visite médicale où on vous valide le visa avec une vignette. L'OFI vous remet une vignette et ça valide le visa dans sa durée comme un titre de séjour. Avant, il y avait la procédure de dépôt du dossier et tout. Tout ça, c'est fini pour les étudiants. Vous passez directement par l'OFI et votre visa est validé comme titre de séjour pour sa validité en fait. Et à ce moment-là, donc vous payez, il y a une taxe OMI à payer, vous devez le savoir aussi, qui est de 50€ pour les étudiants au moment de la visite médicale. Et pour le renouvellement, donc cette fois-ci, il y a un dossier à déposer. Ce dossier doit être déposé dans les 2 mois qui précèdent la date d'expiration. Est-ce que c'est assez clair dans la formulation, dans les 2 mois avant l'expiration, la fin de la carte de séjour, enfin du visa en l'occurrence. Vous pouvez venir déposer ce dossier auprès du presse UMSF. Pour les étudiants, c'est sans rendez-vous, bien sûr. Et il y a une taxe OMI à payer qui est de 30€ pour les étudiants et 55€ pour stagiaires, mais je ne pense pas que ce soit trop votre cas en stagiaire. Voilà, il y a plus d'informations sur notre site internet avec la liste des pièces à fournir pour le renouvellement, etc. Donc n'hésitez pas à le consulter si besoin ou à prendre contact. Après, je vous donnerai les contacts du presse de l'accueil étudiant où vous pouvez aussi avoir d'informations au niveau du statut étudiant. En ce qui concerne le changement de statut, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse tous. C'est pour ça que Catherine a précisé avant que je prenne la parole que là, c'est vraiment du cas par cas. Cette situation-là, c'est en fait selon votre parcours, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc c'est vrai que c'est dur de donner une généralité sur ce changement de statut. Ce que je vous conseillerais, c'est si vous avez des questions par rapport au changement de statut, c'est de prendre contact avec moi. Moi, j'ai besoin aussi de voir avec la préfecture. Souvent, vous verrez dans la procédure que ça m'est très important, par le lien qu'on a avec la préfecture, d'avoir des renseignements par rapport à votre cas, vos papiers actuels, ce que vous avez obtenu, de pouvoir demander à la préfecture qu'est-ce qui va être possible dans votre situation pour le changement de statut vers scientifique. Dans les conditions générales, pour obtenir le statut scientifique, quand vous avez déjà un titre de séjour étudiant, bien sûr, c'est quand vous avez une carte de séjour étudiante et que vous êtes passé salarié ou post-doctorant, que donc vous avez obtenu votre doctorat, et d'obtenir une convention d'accueil. Donc ça, j'en parlerai aussi après plus précisément, de la convention d'accueil qui doit être validée par la préfecture. Est-ce que jusqu'ici tout est clair? Est-ce que je parle pas trop rapidement? Je voulais savoir avant de continuer. Ça va? À peu près? Bon, de toute façon, n'hésitez pas à m'interrompre si besoin.
Alors, quand vous parlez de salarié, c'est dans le domaine de la recherche, bien sûr.
Oui, voilà. Quand vous allez avoir juste un contrat de travail, en fait, avec le laboratoire.
D'accord. Et est-ce que les attachés, les ATER, est-ce qu'ils rentrent dans ce cas de figure?
Alors oui aussi. Et pareil, donc ça c'est ce type de cas où je demande souvent l'avis de la préfecture. Quand vous me présentez, vous m'envoyez un mail, vous me présentez les papiers et tout. Moi je fais référence à la préfecture avant de vous affirmer quelque chose pour une demande de changement de statut et qu'après derrière la préfecture me dise « Ah ben non, finalement c'est peut-être pas » parce qu'il y a tellement de petites précisions. Moi, je ne suis pas calé sur toutes les lois non plus. J'applique en fait ce que, en fonction de la préfecture. Mais ça rentre dans ce cas-là normalement. Tu veux préciser quelque chose, Claudine? Dis-moi.
Oui, à ce stade, je voudrais juste faire une précision. Le changement de statut, certes, c'est vous qui allez peut-être le demander à votre établissement, mais c'est votre établissement qui doit l'introduire. C'est-à-dire que c'est votre établissement qui doit décider si oui ou non il souhaite que vous deveniez scientifique et non plus étudiant, tout en restant doctorant, hein. Et c'est votre établissement qui va émettre établir la convention d'accueil et qui va faire toute la procédure avec la préfecture. Et ce n'est pas vous qui vous promenez avec la convention d'accueil qui allez faire valider votre convention d'accueil. Parce qu'il y a souvent des confusions sur ça, c'est pour ça que je le dis. Hein. C'est votre établissement qui va décider si vous devenez scientifique. Bon, après le doctorat, ça peut être assez logique. Donc la convention d'accueil, ça relève de votre établissement.
Oui, je voudrais savoir, c'est quelle la différence par rapport aux bénéfices, aux désavantages d'avoir un titre
ouais. C'est une question qui me revient souvent. Alors là on s'est beaucoup posé la question aussi. Le majeur avantage en fait d'un titre scientifique, c'est que vous n'êtes pas limité au niveau du travail. Avec un titre de séjour étudiant, vous êtes limité en termes de temps de travail autorisé. Vous avez 60% de la durée légale limitée. Donc quand vous avez un contrat de travail, c'est pas évident, donc souvent en post-doc, etc., de pouvoir continuer à travailler, c'est compliqué, il y a des déclarations à faire, etc. Le titre de scientifique, en fait, ne vous limite plus au niveau du travail. Du coup, c'est ça l'avantage.
Parmi les autres différences, lorsque vous êtes salarié mais que vous avez une carte de séjour étudiant, vous n'aurez pas droit en fin de contrat aux allocations chômage. Alors qu'avec une fin de contrat, et si vous avez la carte de séjour scientifique, vous y avez droit. Vous allez au Pôle emploi et vous faites le dossier. Bon, ça va dépendre de la durée de votre contrat antérieur, etc. Il faudra avoir une carte de séjour valable aussi à ce moment-là, mais la préfecture suit. Ensuite, pour le conjoint d'étudiant a le statut de visiteur, c'est ça ?
Oui.
Et le conjoint de scientifique a le statut de a le visa de conjoint de scientifique. La carte de séjour de vie privée et familiale, je crois que ça s'appelle, qui permet aux conjoints de scientifiques de travailler sans autorisation de travail. Donc ce sont deux points importants.
Comme l'a dit Claudine, c'est votre laboratoire d'accueil, votre établissement, enfin la personne qui vous a fait le contrat, qui va décider de ça, l'établissement. Qui va avoir en fonction de ce qu'il a à vous demander, qui va décider. C'est souvent eux qui nous font qui font la demande, qui vont vous produire une convention d'accueil, parce que c'est eux qui la produisent, c'est eux qui vont décider s'ils la font ou pas. Voilà. Après, en fonction, bon, c'est la préfecture qui donne son avis après sur s'ils peuvent accepter le changement ou pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans ces cas-là, donc pour le changement de statut, donc on est d'accord, c'est quand vous avez une carte de séjour étudiant et que vous voulez obtenir une carte de séjour scientifique, et il s'agit d'une première demande, donc une première demande en tant que scientifique, donc d'un dépôt de dossier avec moi aussi. Il faut prendre contact à ce moment-là pour le changement de statut, mais vous serez informé de toute façon, puisque quand une convention d'accueil est produite, en général, on vous renvoie après vers moi.
Bonjour. Excusez-moi. La question, je crois que vous devinez déjà. Qu'est-ce qui se passe lorsque la convention d'accueil ne couvre pas toute la période de préparation de doctorat? Et donc vous avez le titre, c'est mon cas, j'ai le titre de scientifique, mais d'ici, je crois, novembre ou décembre...
La convention s'arrête avant le contrat.
La convention s'arrête alors que... qu'est-ce que j'ai fait de mon statut?
Et vous allez...
Pardon?
Et vous continuez après? Oui, vous restez... Voilà, mais jusqu'au bout du contrat, en fait. Vous parlez jusqu'à la fin du contrat. C'est ça? Alors que la convention ne couvre pas. Le contrat va plus loin que la convention.
Non, il n'y a pas... Non, quel contrat? Je n'ai pas compris.
Votre contrat de travail, c'est ça que vous m'avez dit? Non?
Non. Je parle en l'occurrence du cas d'Averroès que vous connaissez.
Mais alors, comme on l'a dit, en fait, je crois que vous êtes arrivé après. Pour les cas particuliers, on ne répondra pas aux questions. Il faudra m'envoyer un email ou je vous donnerai les contacts après, parce que ça va m'être difficile au cas par cas de répondre. Il y a tellement de choses en fait qui rentrent en compte. J'ai besoin d'un avis. En général, comme j'expliquais à tout le monde, j'ai besoin d'un avis de la préfecture. C'est eux qui donnent leur avis en fait au cas par cas sur ce type de cas. Je peux pas. Il faut que vous preniez contact avec moi. On se connaît déjà, de toute façon, que vous avez mon adresse. Là-dessus, je peux pas, c'est difficile de répondre, de donner une généralité en fait pour un cas particulier et qu'après ce soit pris en... Voilà.